Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Revue de presse, j'ai envie de vous parler du choc du mois de janvier parce qu'on retrouve certains éléments à chacun des débuts d'année. Hier, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui sera avec nous plus tard, a fait le point sur la situation dans les urgences, notamment. Il n'y a pas de surprise, là. On a vu les chiffres pendant la période des fêtes. Grosso modo, on se retrouve dans les salles d'urgence au Québec avec 1000 visites de plus par jour. Et on peut expliquer le pourquoi. Évidemment, une population vieillissante, mais l'influenza, COVID, des problèmes respiratoires et toutes sortes d'enjeux qu'on retrouve durant la période des fêtes. Notons aussi que la vaccination n'a pas été couronnée de succès. C'est comme s'il y avait une fatigue chez les citoyens. Je connais plein de gens qui ont été vaccinés, influenza, COVID, mais beaucoup ont laissé tomber. Et la presse nous parle d'un autre vaccin qui, semble-t-il, est très efficace, mais qui n'est pas très populaire parce qu'il coûte cher. Et ça concerne le virus respiratoire syncytial. Moins de 1% des personnes âgées ont été vaccinées. Pourquoi? Parce que ça se vend en pharmacie et c'est autour de 260 à 300 $ pour le vaccin. Puis on dit que, un, il est efficace et que, en plus de ça, c'est un vaccin qui, quand on le compare avec la grippe, là, va donner de meilleurs résultats. Puis il y en a des effets secondaires liés au virus respiratoire syncytial. Donc, c'est sûr que les prochaines semaines, les prochains mois seront encore difficiles. Et, on va se le dire, c'est pas demain la veille que l'achalandage à l'urgence va baisser. Puis on a toujours les mêmes enjeux. Toujours, c'est toujours la même... L'histoire se répète au Québec. Les salles d'urgence sont pleines. On n'arrive pas à monter les patients sur les étages parce qu'il y a des patients qui sont là, qui ne devraient pas être là, qui n'ont plus besoin d'être à l'hôpital et qui devraient retourner chez eux avec des soins à domicile, pas toujours possible, ou retourner vers une résidence alors qu'on n'a pas de place nécessairement. On a vu hier des résidences pour personnes âgées qui ont fermé, des patients, des bénéficiaires, en fait, qui ont été évincés. Mais ça, là, c'est l'histoire se répète. Et ça prend un plan pour vider les lits d'hôpitaux de patients qui n'ont pas d'affaires là et qui doivent être soignés, traités, encadrés ailleurs, qui n'ont pas besoin d'une équipe médicale pour s'occuper d'eux à temps plein 24 heures par jour. Et tant qu'on ne sera pas capable, tant que le mammouth de la santé ne sera pas capable d'établir des ponts, des liens pour pouvoir déplacer ces gens-là, ben on va se ramasser avec des patients qui vont être cordés dans les corridors et qu'on pourra pas monter sur les étages, puis ils ont besoin d'être là. Si on les garde, là, c'est pas par plaisir, là, c'est qu'ils ont vraiment besoin d'être là. Bon, mis à part tout le dossier des urgences, virus, le ministre a fait le point sur cette période de transition qui nous amène vers la création de Santé Québec. Et on le sait, là, c'est pas un coup de baguette magique, ça va prendre des années avant de voir vraiment les effets du changement de culture. Donc, un comité de transition qui a été créé. Et on retrouve des gens, médecins, gestionnaires ou anciens gestionnaires du réseau de la santé, des sous-ministres. Et on prépare l'arrivée du grand patron de Santé Québec, le Top Gun. Et l'appel de candidature sera lancé dans quelques jours. Ça, c'est le premier choc du mois de janvier, le point sur les salles d'urgence. L'autre chose également dont je vais vous parler, c'est vraiment les taxes. Parce que là, on a vu le budget. Puis ça, à Montréal, puis les villes, là, décembre, c'est le mois des annonces. Puis les villes, en cœur, nous ont répété, on n'a pas une scène, puis là, on s'en vient fouiller dans vos poches. Pour vous donner un comparatif, à Toronto, les taxes municipales, l'augmentation prévue là, de 10,5 % du compte de taxes. Alors, quelqu'un qui paye 5-6 000 de compte de taxes va se ramasser avec 500, 600, puis ça va être 1 000 plus d'augmentation. Montréal, par exemple, c'est moins que ça. Mais on le sait tous que quand on reçoit notre compte, l'augmentation, là, on n'est jamais dans la moyenne, là. Puis c'est très rare que des gens comme ça, des citoyens, bénéficient d'une baisse de taxes. C'est rarissimo. Et ce qui est un peu troublant avec le budget de la Ville de Montréal, c'est que on est incapable, mais vraiment incapable, de proposer des réductions. Ou c'est bidon, mais de dire, là, il y a une capacité de payer des gens, surtout actuellement, qui est limitée. Quand vous faites le calcul de toutes vos augmentations, les taxes, l'électricité, évidemment les taux d'intérêt qui font mal, paiement hypothécaire pour des gens là qui se ramassent avec des augmentations importantes. Faites la somme de ça et ça demeure extrêmement lourd pour beaucoup de citoyens. Puis troisièmement, les prix pour les assurances qui sont en augmentation. Assurance de maison, assurance de voiture. Et les équations sont assez simples à faire. Vous pouvez pas avoir sur le plan météo autant d'événements extrêmes qui amènent des inondations, des dégâts, je parle globalement, là, sans que ça ait un impact sur le prix des assurances que vous payez. Le parc automobile, c'est sûr que après la pandémie, là, on retourne sur les routes, puis il y a un certain nombre d'accidents. Puis beaucoup d'auditeurs qui sont des gens qui fréquentent le réseau routier là, au quotidien vous diront que, je sais pas, on est plus agressif? Est-ce qu'on roule plus vite depuis la pandémie? Est-ce qu'on conduit plus mal? On est tous témoins de comportements dangereux au volant. Puis ça se traduit évidemment par des accidents. Alors, ce que vous allez payer en assurance, par exemple, de dommages pour votre véhicule, ben ça va coûter plus cher en termes d'assurance. Et pour ce qui est de l'alimentation, il y a quand même un élément que je trouve intéressant ce matin. C'est Sylvain Charlebois qui dit que en ce début de 2024, de nombreux consommateurs aimeraient réduire leur consommation de viande et de choisir des protéines végétales par mesure d'économie. Il lance un avertissement. Là, on peut faire un choix de bouffe basé sur une question de santé, de goût. Ça vous appartient. Mais il dit que le prix de la viande a augmenté, mais le prix des protéines végétales a suivi la même tendance. Et là, il prend l'exemple depuis la période, là, depuis le mois de mars, donc il y a presque 4 ans, le prix de la viande a augmenté. Le poulet, le porc, le bœuf, d'importantes fluctuations. Et pas un peu, là. Vous le voyez quand vous faites vos courses, là, ça coûte de plus en plus cher. Prenons le bœuf haché qui a augmenté de 16 % net en novembre par rapport au mois de mars 2020. C'est quand même pas rien, là. C'est juste du bœuf haché, là. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les protéines végétales ont connu également des augmentations substantielles. Alors, il attire notre attention quand même sur ce phénomène. Deux petites notes rapides. La première, ça concerne des produits de vapotage qui ont été conçus pour contourner la loi qui interdit les saveurs. On sait que les compagnies se sont battues pour empêcher ça, puis finalement, ils n'ont pas eu gain de cause. Et dans la presse ce matin, on apprend l'existence, je savais pas ça, là, on a décidé d'offrir, je dirais, en parallèle, des espèces de produits. Et c'est vendu dans des boutiques. Et ce sont des additifs pour donner justement de la saveur, pour donner des arômes pour le vapotage. Donc, on l'a interdit, t'as pas le droit de vendre ça, mais les fabricants, vous avez l'industrie du tabac qui est encore pas mal derrière ça, là, et qui décide de contourner la loi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai beaucoup pensé cette semaine à l'histoire du petit Mathis, cet adolescent de 15 ans qui a acheté une pilule sur la rue, qui était plus forte que le fentanyl, puis qui a pris ça sans trop savoir, et qui est malheureusement décédé. On a parlé avec son père cette semaine. Puis, je lisais ce matin qu'on vend actuellement dans des stations-service aux États-Unis, dans des dépanneurs. Et c'est aux États-Unis, mais on sait que la crise des opioïdes a commencé aux États-Unis, puis rapidement, ça s'est retrouvé au Canada, puis on connaît des cas ici au Québec. Donc, on vend quoi dans ces dépanneurs et dans ces stations-service? C'est présenté comme étant des suppléments alimentaires. Donc, tu sais, cette espèce de bénédiction de produits naturels bons pour la santé, puis on n'a pas à se poser de questions. Or, il semble que les substances à l'intérieur s'apparentent davantage à des opioïdes et qu'il y a eu un nombre élevé de cas. Puis là, les jeunes achètent ça, là, ils vont au dépanneur, puis ils prennent ça, puis évidemment, l'emballage est très, très attirant. Et ils bouffent ça et ils ont des effets secondaires. Pas mortels, mais des effets secondaires. Ils peuvent perdre conscience, ils peuvent se mettre à vomir. Puis... Et c'est vendu, là, à côté des tablettes de chocolat puis des sacs de chips. Il y a ce côté-là d'entreprise qui se pose pas de questions puis qui vendent n'importe quoi. Puis là, ça a l'air que c'est bien compliqué pour la Food and Drug d'intervenir dans ce dossier-là. Mais il y a ce qu'on vend sur le marché noir, qui est excessivement dangereux, puis il y a ces autres produits où les entreprises essaient constamment de contourner la loi. Maintenant, dans Le Devoir ce matin, on nous dit que les profs manquent à l'appel dans plusieurs écoles, notamment Montréal, Laval, Longueuil, là, si on prend évidemment le Grand Montréal. Et il y a des profs qui, pendant la grève, ont quitté. Puis il y a d'autres profs qui pensent s'en aller. Ce qui fait que plus de 320 postes d'enseignants à temps plein et à temps partiel sont à combler dans les écoles. Il y a eu ce plan de rattrapage du ministre cette semaine. Et on a besoin de gens pour ça, là, pour faire le tutorat, puis d'avoir un nombre suffisant de profs dans les classes. L'Alliance des professeurs de Montréal dit que c'est mal géré. Et moi, je répète que l'effet du talon de paye est limité. C'est-à-dire que les profs méritent les augmentations, on est bien contents. Puis ce sont de bonnes augmentations, là, surtout quand on va être rendu au sommet de l'échelle. Mais quand ça fait un mois que tu vis avec la nouvelle augmentation, c'est plus quelque chose de déterminant. Tu t'es comme habitué. Et ce qui va faire la différence, évidemment, ce sont les conditions de travail, les modalités, la composition de la classe, le nombre de soutiens apportés à un enseignant. Et je vous ferai remarquer que depuis le début, ni le ministre, ni les syndicats veulent nous dire ce qu'ils ont négocié. Et depuis lundi, moi, je pose toujours la même question. Qu'est-ce que ça va changer dans les écoles? Si je suis prof, en quoi ma tâche va changer? Et là, on mise sur la bonne foi puis la bonne volonté des enseignants. Les profs, ils nous disent, on est débordés. On est, là, victime d'une surcharge de travail. Puis là, on sort... pour ce qui est de la FAE, de 22 jours de grève, là, 24. Et puis, on reprend. Puis là, il faut faire du rattrapage. Ça va être... Déjà, là, l'horaire régulier sera en surcharge. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu de paye. Puis c'est tentant peut-être de vouloir en faire plus. Mais est-ce qu'on va être capable d'arrimer l'offre additionnelle de services à une pénurie de profs déjà surchargés? En tout cas... Puis on cherche des tuteurs, là, puis des anciens profs, l'appel au retour a été lancé. Donc, dans Le Devoir, vous avez ces détails-là ce matin. Aussi, je souligne cet article dans la presse concernant une agression au couteau à Chicoutimi. C'est Vincent Larouche qui raconte ça. Et on est en train de se demander si cette attaque-là, qui à première vue a l'air d'un acte criminel, comme on en voit malheureusement trop souvent, serait pas aussi un acte terroriste. Alors, il semble que c'est un cuisinier qui aurait tenté de tuer trois employés du restaurant La Belle et la Bœuf avant Noël. La veille de l'attaque, le suspect avait annoncé en ligne que quelque chose se produirait dans l'établissement, tout en célébrant le Hamas et ses chefs. Donc, est-ce que, entre ce qu'il a écrit sur les réseaux sociaux, son appui au Hamas et l'agression au couteau contre des collègues, des employés de restaurant, il y a un lien? Alors, la GRC est là-dessus. Ça s'est passé le 20 décembre. L'homme est accusé, évidemment, de tentative de meurtre. Il demeure détenu. Et là, on veut voir s'il y a des motivations précises de haine politique. derrière son agression. Tantôt, on vous parlait du palais de justice, puis je vous donnais l'exemple de Rouyn Noranda. C'est un avocat qui m'a écrit. Et dans le cas de Rouyn Noranda, dans une cause en droit de la famille, il y a quelques semaines, là, au palais de justice, donc, il y avait des allégations de violence qui étaient en cause dans un dossier. Et le juge a fait venir deux policiers de la Sûreté du Québec dans la salle avant de rendre sa décision par crainte de la réaction du père et le fait qu'il n'y avait pas de constables spéciaux au palais de justice. Quand même assez étonnant. Et par la suite, c'est ce que j'ai pas mentionné tantôt, un courriel des juges coordonnateurs de l'Abitibi nous demande maintenant d'aviser à l'avance lorsqu'un dossier comporte des allégations de violence pour tenter d'obtenir la présence d'un constable spécial et que le juge pourrait refuser de siéger dans le cas contraire. Et il ajoute, et c'est vrai, qu'on a de plus en plus de gens qui se représentent seuls, de gens perturbés, de gens qui peuvent péter des coches. Les avocats sont souvent insultés, menacés, intimidés en personne au téléphone, par courriel, sur les réseaux sociaux. Donc, ce climat qu'on retrouve dans la société en général, c'est encore plus exacerbé quand on se ramasse dans un palais de justice et qu'on a des causes comme ça qui sont entendues. J'attire votre attention sur un jugement qui a été rendu en Colombie-Britannique. C'est un ancien professeur, c'est un auteur qui s'appelle Stephen Galloway, qui depuis 5 ans fait face à des accusations d'agression sexuelle. Il prétend que c'est totalement faux. Il dit que sa réputation a été détruite, qu'il a perdu des revenus et voulait obtenir la permission de poursuivre celle qui prétend être la victime. Et il a obtenu gain de cause. Ça veut dire que M. Galloway va pouvoir poursuivre la femme qui l'accuse de l'avoir violée. Et là, évidemment, c'est un enjeu important, là, parce que d'un côté, il y a des personnes accusées qui se disent « c'est pas vrai que je vais me faire canceller, là, annuler, sans pouvoir réagir, sans pouvoir poursuivre, quand je dis que c'est faux ». Puis là, on est dans ce genre de dossier. Puis en même temps, est-ce que le fait de peut-être se faire poursuivre parce qu'on dénonce quelqu'un, ça va empêcher des femmes de venir porter plainte, de déclarer ce qu'elles ont vécu, puis de faire en sorte que des individus soient arrêtés et jugés. Mais, si j'imagine, ça va se rendre jusqu'en Cour suprême, en Cour supérieure, donc Cour Colombie-Britannique, on vient de permettre, c'est la Cour d'appel, là, une poursuite comme ça en diffamation. Et vous vous souvenez peut-être de cet artiste multidisciplinaire, Franck Sylvestre, qui lui poursuit un porte-parole de l'organisme Coalition Rouge pour des propos diffamatoires. Ça, c'est cet artiste qui fait un spectacle, L'incroyable secret de Barbe Noire, puis il y a une marionnette qui est noire. Et là, on l'a accusé de faire du blackface, puis on a dit qu'il n'y a pas de droit. Puis lui-même est quelqu'un qui est noir, ou en tout cas, il est, disons, c'est pas un caucasien. Puis il dit, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Alors, il décide lui aussi de poursuivre pour des raisons diffamatoires. Et rapidement, vous dire aussi que du côté de la guerre, on parlait du Hamas tantôt, Israël se retrouve accusé probablement là devant la Cour des Nations Unies, le tribunal le plus important des Nations Unies. Une accusation de génocide pour, évidemment, les attaques répétées sur le territoire de Gaza.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Les urgences au Québec débordent, on le sait. C'est toujours un peu le même scénario dans le temps des fêtes. Il y a eu plus de patients cette année. Et on sait que pour les prochains mois, ça va pas vraiment s'améliorer. Il y a l'Agence de santé qui est en mode de préparation. Il y a un comité qui a été formé de transition. Le ministre de la Santé est avec nous ce matin, Christian Dubé. Monsieur Dubé, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Bon, je vais commencer par les urgences, évidemment. Là, si on veut se parler franchement, c'est toujours un peu le scénario des fêtes. Là, les gens sont un peu plus malades, ils se présentent, mais cette année, ils ont été plus nombreux.
Plus nombreux, plus âgés aussi, puis avec un effet, je dirais, encore plus grand qu'à l'habitude de nos trois virus, particulièrement l'influenza. Je l'ai expliqué hier en point de presse, là, et d'ailleurs, le docteur Boucher, qui était avec nous hier, l'a bien expliqué. Les virus l'an dernier, comme l'influenza, nous ont plus frappés en octobre-novembre, au moment où nos employés sont pas en vacances des fêtes, etc. Et là, on a eu, le gros de l'influenza là en décembre, durant les fêtes. Puis dans les statistiques que je publiais hier, on a le double des personnes qui sont pour l'influenza là, durant nos urgences. Donc, plus de monde, plus âgé, puis avec plus de virus. Alors ça, c'est pas vraiment les conditions idéales pour que ça s'améliore, là.
Est-ce que, quand vous regardez les chiffres sur la vaccination, il y a comme une écœur anti-vaccinale au Québec là, de gens qui disent là, on s'est fait vacciner pas mal, COVID, grippe et tout ça, puis là, on fait comme une pause. J'ai l'impression qu'il y a comme une désaffection des vaccins actuellement.
Je vais faire une différence entre les vaccins COVID puis les vaccins de grippe comme l'influenza. Je pense que pour ce qui est des vaccins COVID, vous avez raison, mais en même temps, les gens ont été quand même beaucoup vaccinés qui ont fini par développer cette immunité-là. Moi, je donnais l'exemple hier. Moi, je suis rendu à mon 6e vaccin COVID. Même si je l'avais pas eu 2 mois avant, j'ai quand même une certaine immunité. Mais c'est pas le cas pour l'influenza. Puis c'est un petit peu ça la différence. Je pense que si j'avais un seul message à donner aujourd'hui, puis c'est ce qu'on a essayé de faire hier, c'est la COVID, c'est une chose. Elle est en baisse en ce moment. Vous pouvez aller vous faire vacciner encore. Nos centres sont disponibles. Mais sur l'influenza, je dirais particulièrement pour les personnes âgées, on n'a pas encore 50% de nos gens qui se sont fait vacciner pour l'influenza. Moi, si j'avais une suggestion à faire, c'est là.
Bon, la presse parle ce matin d'un autre virus respiratoire où il y a un vaccin qui existe, mais qui coûte entre 250 et 300 $. On dit que c'est un vaccin efficace, puis qui est peut-être à prendre plus même que celui de la grippe qu'on avait à choisir. Là.
On a parlé beaucoup, d'ailleurs, le docteur Boileau a été très clair hier. Nous, on attend une recommandation de la SIC. Vous savez, M. Arcand, on a toujours été pareil. On n'a jamais lésiné 1 $ s'il faut payer pour ces vaccins-là. Mais moi, ça me prend une recommandation du comité d'immunisation, ce qu'on appelle le SIC. Là. Alors, on leur demandait, au docteur Boileau, si jamais il y avait... Parce que c'est quand même un vaccin qui a été autorisé par le Canada il y a 2 mois. Fait que là, on attend pour voir qu'est-ce que notre comité, le comité d'immunisation nous dit. Mais s'il y avait un changement dans leur façon de faire puis qu'ils recommandaient de le faire, c'est sûr qu'on le mettrait.
Est-ce qu'il y a un délai? Est-ce que vous savez à quel moment vous allez recevoir l'avis?
Bien, je l'ai demandé. Moi, le docteur Boileau me disait que ça peut être assez rapide, mais en ce moment, j'ai pas de date précise
pour ça. Je reviens sur les urgences. Est-ce que les groupes de médecins de famille ont été utilisé au maximum durant la période des fêtes? C'est-à-dire que quand les urgences débordent, quand on cherche une porte d'entrée pour le réseau, normalement, ces cliniques-là, pour les rendez-vous, devraient pouvoir servir pour des patients où ce n'est pas des cas là, super urgents. Là. Est-ce qu'ils ont été mis à contribution ou ils ont fermé les portes?
Ben, écoutez, c'est un peu, vous savez, là, j'essaie de toujours dire les choses comme elles sont, là. Puis
ouais.
J'ai demandé au docteur Amiot, là, qui est le président de la FMOQ, que les gens connaissent bien, pas plus tard que mardi de cette semaine, je lui ai dit, il faut qu'on se rassoie pour voir. Pas parce que vous faites pas le travail et que les médecins ne font pas. Je pense qu'ils ont fait une excellente prise en charge depuis 1 an. Par contre, moi, ce que j'aime pas entendre, c'est quand les gens me disent « Ouais, maintenant, j'en ai un médecin de famille où j'ai été identifié pour être vers une clinique spécifique. J'appelle et je suis pas capable de prendre un rendez-vous. » C'est quoi le problème? Et le docteur Amiot m'a dit qu'il y avait des recommandations très précises à me faire dans les prochains jours. Puis hier, il y avait une rencontre justement avec l'équipe de sous-ministre du ministère et l'équipe du docteur Amiot. Fait que moi, j'attendrai pas des mois, là. S'il y a des choses... Puis c'est un peu la même chose avec les urgences. On connaît les solutions. Hein? Puis je vais être bien clair, là, M. Arcand. On connaît les solutions. On connaît les solutions avec les médecins. Mais souvent, il y a des bloquants. Un bloquant, ça veut dire, il y a quelqu'un quelque part qui dit, ouais, mais on comprend qu'il faut faire ça, mais on n'est pas d'accord avec ça.
Fait qu'on le fera pas.
On le fera pas. Tu sais, c'est un oui. Hein? C'est pas non, c'est pas oui, c'est un oui. Puis moi, là, j'ai dit, ben écoutez, ça se peut pas. Alors, je mets aucun tort sur les médecins. Je veux juste être bien clair. Mais en même temps, des cliniques, des GMF qui ont moins d'ouverture durant les fêtes, on peut comprendre que les gens doivent prendre leurs vacances. Mais c'est quoi l'alternative? C'est un peu ce que vous me demandez.
C'est-à-dire que si on a des urgences qui débordent, il y a un certain nombre de patients qui, normalement, devraient être capables d'avoir un rendez-vous puis pas se pointer à l'urgence. Moi, ce que je vois, ce que j'entends, c'est que les GMF, c'est difficile d'accès du 15 décembre au 15 janvier.
Et c'est un des points que j'ai demandé au docteur Amiot, pas plus tard qu'hier, de me dire, faites-moi des recommandations. Est-ce que c'est parce que toutes les conditions qu'on a entre le gouvernement et les GMF, les heures d'ouverture, les fins de semaine, etc., ça se négocie une fois par année, ça. Puis ça va changer à partir du 1er avril. Ben moi, s'il y a des changements à faire à ces conditions-là, parce qu'on paye les GMF un certain montant pour être une catégorie 1, 2, 3, là, dépendamment des ouvertures. Alors, rapidement, ce que je vous dis, s'il y a des changements à faire avec ça, moi, je veux le savoir pour que dans le nouveau contrat du 1er avril, on en tienne compte.
OK, on a un enjeu avec les médecins de famille, là, si on veut se parler franchement. Là.
Ben, je dirais pas avec les médecins comme tels, mais avec les organisations. Et c'est pour ça que je veux faire attention parce que...
Ils vous disent des affaires, puis c'est pas toujours
non,
ce qui est livré.
Je vais vous donner un exemple. Je vais être très concret. Moi, j'ai demandé depuis un an à ce qu'on soit capable d'avoir une idée globale des rendez-vous. Y a-tu 15 millions de rendez-vous qui se donnent dans les GMF, 16 millions, 17 millions. Vous savez une chose? Je le sais pas. Parce que j'ai pas le droit d'avoir cette information-là. Mais dans les prochaines semaines, je vais avoir le droit parce qu'on a fait la fameuse loi là-dessus. J'ai dit au docteur Amiot, ben écoutez, là, d'ici quelques semaines, là, je vais publier ce nombre de rendez-vous-là. Puis on va le voir si le nombre de prises en charge additionnelles qu'on a eues, les 800 000 patients, est-ce que ça a eu un impact sur le nombre de rendez-vous? Parce que nous, on a payé comme contribuables pour avoir plus de prise en charge, mais est-ce que ça a eu un impact? Alors, quand on a ces statistiques-là, vous savez comment j'aime ça, être capable de regarder les chiffres, ben je vais peut-être me rendre compte que c'est pas 100% des médecins qui ont un problème, c'est peut-être 5%, puis c'est ceux-là qu'on doit faire un certain effort. Puis quand je dis les médecins, les GMF dont je vous parle. Alors, j'ai besoin d'avoir de l'information. C'est pour ça qu'on a pris beaucoup de temps à faire les projets de loi qu'on a fait dans les deux dernières années. Maintenant qu'on les a, ben cette information-là, je veux m'en servir pour savoir les endroits spécifiques où on doit s'améliorer.
Le problème qui revient tout le temps, c'est-à-dire patients à l'urgence qu'on peut pas monter aux étages parce qu'il n'y a pas de place, les lits sont occupés. Et souvent, les lits sont occupés par des gens qui n'ont pas d'affaires d'être à l'hôpital.
Tout à fait.
C'est toujours un enjeu, ça.
C'est un enjeu. C'est un autre bel exemple. On l'a identifié. J'ai en ce moment 1000 lits de trop, 1000 lits qui sont occupés par des patients qui devraient sortir de l'hôpital. Là, on me disait que pour aller en appel d'offres, pour acheter des places, ça me prendrait 3 à 4 mois à cause du système d'appel d'offres. J'ai dit, c'est pas vrai, on va acheter 500 places, gré à gré, peu importe. On est en train de le faire, on le voit déjà qu'on a baissé nos NSA. Là, nos...
C'est-tu un genre d'exemple où il y a un oui comme réponse?
Voilà, exactement.
C'est-à-dire qu'on vous dit ça marche, mais dans le fond, il y a quelqu'un qui bloque ça.
Il y a quelqu'un qui bloque ça ou dit, moi, le service qu'on va avoir, c'est pas ce qu'on a dans les hôpitaux. Je dis, écoutez, on peut pas continuer à travailler avec 2000 personnes qui sont en attente d'une place. On va acheter ces places-là, on va baisser la pression, puis après ça, on se dira, bon, maintenant, dans quelle période de l'année? Je pense que c'est des choses, c'est des exemples maintenant qu'on comprend. Moi, j'ai dit, identifiez-moi les bloquants. Puis deuxièmement, c'est qui a le levier pour faire le changement? Des fois, c'est le ministre, moi, il faut que je le sache. Mais des fois aussi, c'est par exemple la FMOQ ou c'est la FMSQ. Fait que je mets pas de tort, mais je veux dire, quand vous savez l'information...
Vous êtes un diplomate.
Ben, je dirais pas ça. Je dirais que je veux travailler de façon constructive avec tout le monde. Puis, il y a rien de pire que de dire c'est de ta faute. Moi, ce que je dis, c'est...
Et moi, j'irais ça me faire dire oui, puis que dans les faits, c'est pas ça qui arrive.
Bon, mais là, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup, le docteur Boucher, sa cellule de crise.
Vous, là, vous l'avez neutralisé solide, là, ce que disait mon ami Jonathan Trudeau. Tu sais, vous le prenez, vous l'assoyez à côté de vous, c'est le gars des urgences qui pouvait être partout dans les médias puis critiquer les urgences, là. Là, vous êtes bodé avec, là.
Ben, savez-vous pourquoi? Ben, OK, c'est un bon point, bodé. Mais il me dit les vraies affaires. Il me dit, écoutez, là, les personnes qui, en ce moment, qui disent oui, là, c'est eux autres. OK, ben, c'est ça que je veux savoir, moi. Moi, ça me prend des gens de terrain. Ça me prend des Michel Delamar, ça me prend des docteurs Boucher qui disent, garde, là, on se fait dire qu'il faut faire ça, mais quand on arrive pour le faire, ça marche pas. Alors, il me dit, écoute, veux-tu que je continue d'être sa cellule de crise? Moi, j'ai dit, va-t'en pas. Au contraire, reste, mais dis-moi ce qui marche pas. Alors, ça me prend des gens comme ça. Mais c'est ça, là, c'est une philosophie de gestion. C'est ça, ce que je veux faire avec Santé Québec, c'est exactement ça. Ça me prend des gens de terrain. Ça me prend pas juste des fonctionnaires. Des fonctionnaires, okay. C'est bon pour des choses, mais ça me prend des gens de terrain.
Je veux parler, en fait, des conventions collectives, la loi qui est entrée en vigueur et tout ça, là.
Là, je vais être moins parlant sur les conventions collectives.
Je le sais, ouais. Mais quand même, faut que je leur pose la question parce que des infirmières, entre autres, qui m'écrivent, employés des hôpitaux, là, qui me disent, est-ce que on va nous changer d'établissement de force? Est-ce que mon employeur va me dire, t'es à Charlemagne, tu t'en vas à Pierre-Boucher, t'es à Auchum, je t'envoie à Maisonneuve-Rosemont? Est-ce que ça peut arriver? Je dis pas de demander et sur une base volontaire, mais qu'on oblige des déplacements.
J'aimerais tellement ça vous répondre, M. Arcand. J'aimerais tellement ça. L'engagement, puis je pense que c'est ce qu'il faut faire, que le conciliateur nous a demandé, c'est de réserver nos commentaires. Il y a beaucoup d'informations, puis c'est le mot que je choisis de dire, qui se fait en ce moment, puis moi, je jouerai pas dans le jeu, là. J'ai fait des demandes très claires à Mme Lebel, Madame la présidente du Conseil du Trésor, qui fait un travail extraordinaire d'essayer de faire un deal gagnant-gagnant, comme avec le Front commun. On va le laisser voter, ces gens-là. On l'a dit, c'est un peu plus compliqué avec la FIC. C'est ce que je vais vous dire ce matin. Par contre, on s'est entendu de dire qu'on ne fait pas de commentaires. Moi, je sais ce que j'ai demandé.
Mais vous savez pas si vous l'avez ou si vous allez l'avoir.
Ben, je me fie beaucoup à Madame Lebel. C'est peut-être pour ça que c'est plus long. Mais j'en dirai pas plus parce que l'engagement de ne pas négocier sa place publique, moi, je crois beaucoup à ça.
Okay.
Je vais arrêter ça.
OK. Santé Québec.
Oui. On commence à parler des choses intéressantes. Là.
Ben, on vient de faire pas mal de choses intéressantes.
Oui, non, mais quand je dis ça pour moi,
okay.
Moi, les projets de loi, c'est bien le fun, là, mais on peut-tu faire arriver les choses maintenant?
Là? Le PDG, là, est-ce qu'il doit venir du privé ou s'il doit déjà connaître le réseau?
Une combinaison des deux. Moi, je regardais ça hier quand je voyais la caricature de M. Chapleau là, sur les Top Gun. Là. Je trouve ça intéressant, mais ça me prend plusieurs bons gestionnaires, pas juste un Top Gun. Fait que, pourquoi je vous dis ça, c'est que vous avez vu le film, la deuxième version de avec Maverick. Il n'y a pas juste un bon pilote, il y a plusieurs bons pilotes qui travaillent ensemble. C'est ça mon objectif. Alors, est-ce que mon président ou ma présidente va être quelqu'un du réseau? Ben, s'il n'est pas du réseau, il faut qu'il soit complété, par exemple, par un chef des opérations qui connaît très bien le réseau. Fait que c'est beaucoup plus la complémentarité.
Mais est-ce que ça veut dire que vous faites plusieurs appels de propositions, là?
D'une équipe de direction.
En même temps.
En même temps. Alors, à partir de mardi ou mercredi prochain, là, je me souviens pas de la date, là, on fait l'appel de candidature. Oui, tout le monde va se concentrer, c'est qui le chef? Hein, c'est qui le ou la chef? Mais en même temps, je me sers sur ce qu'on appelle un chef des opérations qui, lui, fait la coordination avec les 36 PDG parce que notre président ou présidente va s'occuper des finances, va s'occuper des ressources humaines. Mais la personne clé, à mon sens, la deuxième personne clé, le numéro 2, c'est le chef des opérations qui va faire le lien avec les 36 CCIUS, là.
Mais ce chef-là doit connaître le réseau s'il veut être efficace.
Écoutez, moi, je ne le connaissais pas, le réseau. OK? Puis je me suis fié à des personnes comme Mme Savoie. Puis des... Alors, je vous dis pas que mon idée est faite, mais je me dis...
Mais il pourrait être le chef des opérations.
Oui, c'est ça. Un chef des opérations, pour moi, doit connaître le réseau.
Ça,
pour
oui, moi, c'est ça ma question.
Mais le CEO présidente, ça, pour moi, c'est quelqu'un qui... un peu vient avec des idées externes puis de dire, OK, maintenant que vous suivez là, ce qu'on doit suivre en termes d'opérations, est-ce que les choses qu'on doit faire arrivent? C'est ça un chef des opérations, là, ce qu'on discutait tantôt.
On a vu cette semaine, en gros, là c'est 1 demi-million, la job de président.
Ouais.
OK. Pas d'auto, pas de chauffeur? Ou...
Mardi prochain, vous allez voir les conditions, ils vont être publics. Là, fait que j'embarquerai pas là-dedans. Je suis pas sûr que c'est le chauffeur qui fait une différence. Fait que j'aime
non,
avoir...
non, mais le président d'Hydro-Québec en chauffeur.
J'ai vu ça dans une caricature encore. Attendons de voir les conditions. Okay.
Est-ce que vous qui aimez les chiffres et le tableau de bord, là, le 500 000, disons, là, c'est le salaire de base avec des bonus à venir? Autrement dit, là, moi, je veux bien Top Gun à 1 demi-million, mais je veux des résultats. Là. Je veux que les listes d'attente baissent, je veux que les urgences soient réglées. Est-ce qu'il va être rémunéré avec des bonus performance en plus?
La terminologie, je veux faire attention parce que la que ce soit des bonnies ou que ça, il va y avoir une façon de s'assurer que les objectifs sont atteints. Dans ces grands emplois-là, ce qu'on appelle les emplois supérieurs, j'ai demandé d'avoir un peu le même principe que dans les grands emplois supérieurs, mais à chaque fois, ça me prend un décret du gouvernement pour le faire. Fait qu'on va finaliser ça dans les prochaines...
En fait, est-ce que le 500 000, c'est un salaire de base?
Oui. La réponse est oui. Moi, je veux être certain. Regardez, là, au mois de novembre dernier, c'est pas loin, là, j'ai publié ce qu'on appelle nos objectifs très clairs des trois prochaines années. Mais là, la journée qu'on choisit cette personne-là, elle a ça sur la table, elle dit, tu vas me livrer ça dans combien de temps? Fait que c'est sûr qu'il va y avoir une partie qui va être liée
à ça. Et cette personne-là peut aller chercher combien dans une année? Si elle atteint tous ses objectifs?
Habituellement, les performances vont de 15 à 20%. Je dis habituellement, là, c'est ça qu'on... Fait que si vous avez un salaire de base de 500 000, ben, il y a peut-être 150, 200 000 qui va chercher là-dessus. Quelque chose comme ça. C'est une question. Tous les emplois comme les vice-présidents dans certaines situations de sociétés d'État ont ça. C'est qu'il faut toujours le faire spécifiquement pour le président ou la présidente. C'est pour ça que je vous donne pas une réponse aussi ferme aujourd'hui. Faut que j'aille chercher cette condition-là dans les prochaines semaines.
En terminant, mettons qu'il est pas satisfaisant, votre nouveau président. Est-ce que quand il prend la job, c'est un job à vie, vous avez le droit de le mettre dehors, ou si, comme on voit, des fonctionnaires pas bons qui se ramassent à une autre place, puis qui sont comme des chats, là, puis qui ont plusieurs vies dans le système?
Il n'y a pas de plusieurs vies, là, pour notre expression.
C'est un job ou t'es dehors.
C'est un contrat, c'est très clair, il n'y a pas de permanence. Puis c'est habituellement 4 ans ou 5 ans. Là, je pense que dans notre cas ici, on va le mettre 5 ans parce que je veux avoir le temps que cette personne-là prenne le temps de bien faire les choses. Mais c'est sûr que si ça ne fait pas la job, il n'y a pas de protection.
M. Dubé, merci d'être venu ce matin.
Merci. Et puis en passant, M. Arcan, tout le monde est bien content de vous voir de retour. Ma conjointe en commençant. Merci beaucoup.
Content d'être là. Merci. Christian Dubé, le ministre de la Santé.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Avec le ministre, on a regardé la situation dans les urgences au Québec. Plus de gens âgés, plus de cas de gens qui se présentent avec des problèmes respiratoires. Et on a tous quelqu'un dans notre entourage, je pense, qui a testé positif à la COVID avec des symptômes légers, des cas de rhume, d'influenza, de virus respiratoires de toutes sortes. On va faire le point ce matin avec le docteur Carl Weiss, qui est microbiologiste à l'Hôpital général juif de Montréal. Bonjour, docteur Weiss.
Oui, bonjour, Monsieur Arcan.
D'abord, est-ce que la saison actuelle est une saison classique, normale, de ce qu'on retrouve année après année, ou s'il y a des éléments différents et peut-être plus inquiétants?
Alors, c'est une saison tout à fait normale. Je pense qu'on a premièrement oublié ce qui était une saison normale. Si on retourne à la période de 2014 à 2019, donc avant la pandémie, la saison de grippe actuelle et la saison de virus respiratoire actuelle sont dans ce qui est attendu et ce qui est la normale de la saison. Il n'y a absolument rien d'extraordinaire dans notre saison de grippe cette année. Donc ça, c'est le premier point. Évidemment, on a rajouté la COVID dans la recette, parce que maintenant, la COVID est devenue un virus endémique qui est persistant dans notre environnement, mais qui n'est plus du tout un virus avec un impact extrêmement majeur sur la sévérité de la maladie. Donc les gens qui font des COVID sévères, on n'en voit quasiment plus dans les hôpitaux. Donc, la COVID, oui, est présente, mais on pourrait dire que la saison d'influenza, globalement, tout comme celle du RSV, d'ailleurs, celle du RSV, vous savez, l'année dernière et l'année d'avant, on a eu même une saison plus importante de virus respiratoire syncytial parce qu'on avait eu un espèce de rattrapage. Et donc, la saison d'influenza, ce qu'elle a cette année, c'est qu'elle est peut-être un petit peu plus précoce que les années précédentes. On parle encore des années 2014 à 2019. Plus précoce, je parle de peut-être 2 semaines plus précoce. Mais c'est une saison qui est très similaire et on semble avoir atteint un plateau. Donc, peut-être même un plateau qui commence un petit peu sa phase descendante à l'échelle du Québec ou du Canada.
Dans le cas des virus respiratoires, le virus syncytial, on parle ce matin d'un vaccin qui est en attente d'autorisation. C'est un vaccin qui coûte 250 ou 300 $. Vous en pensez quoi de ce vaccin-là? Est-ce que ça vaut la peine?
Répond de la façon suivante. Le virus respiratoire syncytial touche principalement les jeunes enfants. C'est-à-dire, son utilité majeure serait probablement de vacciner les femmes enceintes pour empêcher que les jeunes enfants fassent un virus respiratoire syncytial dans les 6 premiers mois de vie, parce que c'est là souvent qu'on voit des problèmes sérieux avec ce virus-là. Pour le reste de la population, le RSV, c'est un virus qui est relativement bénin, excepté dans certains sous-groupes très particuliers, mais qui, sur une population, sont une toute petite minorité. Je pense, par exemple, à des gens qui ont eu des greffes, toutes sortes de greffes, ou qui sont très immunosupprimés, des gens qui ont des cancers du poumon avec des traitements de chimiothérapie très intenses, mais c'est des tout petits groupes dans la population. Le nouveau vaccin, c'est un vaccin qui est efficace, mais c'est un vaccin qui est un nouveau vaccin dont on n'a pas encore beaucoup de données sur l'efficacité à long terme. C'est-à-dire, est-ce qu'on va devoir donner ce vaccin tous les 2 ans, tous les ans, tous les 3 ans? C'est pas encore trop connu. Et évidemment, comme c'est un nouveau vaccin, c'est un vaccin dispendieux. Moi, quand mes patients me demandent est-ce que c'est un vaccin qui est utile, est-ce que je dois le prendre, ce que je leur dis la chose suivante. Et je le dis par exemple aux Québécois qui sont des snowbirds, qui s'en vont dans le sud pour l'hiver, je leur dis, écoutez, vous partez en Floride ou vous partez en Arizona ou au Mexique et vous voulez pas être malade, vous voulez pas être pris à dépenser des fortunes dans les soins de santé, vous allez être inquiet. Et si vous avez le moyen de vous le payer, ça vaut la peine de vous le payer. Pas tellement parce que j'ai peur que vous ayez une maladie très sévère, mais plutôt parce que quand vous n'êtes pas au Québec, si vous n'avez pas accès à des soins, même des soins de première ligne, on ne parle pas de soins très avancés, peut-être que ça rendra les choses plus compliquées. Donc dans cette optique-là, c'est un vaccin qui peut avoir son utilité. Est-ce que c'est un vaccin qui va changer la donne de façon importante? La réponse, c'est probablement non, parce que le RSV n'est pas un problème très majeur pour la population âgée. C'est pas un virus qui va envoyer les gens à l'hôpital de façon massive. L'influenza, à mon sens, est beaucoup plus dangereux comme virus. Et donc, c'est un virus où on sait que ça peut créer beaucoup plus de problèmes.
Nous sommes au mois de janvier, Dr Weiss, et c'est durant un mois de janvier qu'on a appris l'existence des premiers cas de COVID en Chine. On connaît évidemment la suite des choses. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces dernières années, de la découverte de ce virus, de la façon dont ça a été traité, perçu, comment les Québécois se sont organisés? Quel résumé vous pouvez nous faire un peu de cette découverte qu'on a tous eu ça en pleine face?
Bon, la première chose, c'est que vous voyez qu'une société qu'on pense avancée comme la nôtre est très vulnérable à un virus, puisque pour la première fois, je vous dirais, dans le monde moderne, on a quasiment arrêté de faire fonctionner l'ensemble de l'humanité pendant quasiment une année et demie. La deuxième chose, il faut quand même noter que c'est la première fois aussi dans l'histoire de l'humanité qu'en si peu de temps, on a réussi à identifier un virus, à trouver des vaccins, à fabriquer des médicaments qui sont très efficaces quand on les utilise rapidement. Et donc, on a quand même réussi une percée technologique très, très importante avec un vaccin comme ça. Il faut aussi le souligner qu'il y a eu une compétition technologique entre les pays et on peut dire que les États-Unis sont sans conteste le grand gagnant de tout ça puisque c'est grâce à eux qu'on a eu à la fois les vaccins, à la fois les médicaments et à la fois aussi, pour une grosse partie, beaucoup de tests de détection. Et quand on parlait des N95, c'est une technologie qui a originé aussi aux États-Unis. Donc tout ça mis ensemble, je vous dirais, ça a montré qu'en peu de temps, l'humanité a su se mobiliser. On a aussi appris que, et je pense que c'est le bon côté des choses, que les gens peuvent s'auto-tester. Imaginez-vous, il y a 5 ans, on se serait parlé, je vous aurais dit, par quand faites-vous un test? Les gens m'auraient dit, ben, c'est peut-être pas quelque chose de facile à faire. Là, tous les Québécois savent se faire des tests, ou quasiment. Le port du masque est devenu quelque chose de connu et de facile. C'est-à-dire, c'est plus quelque chose de réservé aux travailleurs de la santé. On a acquis aussi des mécanismes, je dirais, de surveillance et d'autodéfense si un autre virus ou une autre menace survenait, on pourrait mettre des mesures en place rapidement. Donc, il y a un héritage de cette COVID qui est resté parmi nous. Le danger, comme toujours, c'est qu'on oublie rapidement et on se dit, bon, ben, on passe à autre chose et on ne se prépare pas à la prochaine pandémie. Je pense aussi ce qu'il faut se rappeler de tout ça, c'est comment organiser une société rapidement pour qu'elle puisse faire face à ce genre de menaces dans le futur. Et donc, vous vous rappelez, au début, on en avait parlé beaucoup, comment le Canada avait pris du temps à fermer les frontières, comment on avait hésité à dire aux gens de porter des masques. Donc, toutes sortes de choses qui ont fait que, vous savez, il faut être très humble par rapport à la science. La médecine, c'est un art qui utilise des sciences, mais ce n'est pas une science exacte. C'est pas des mathématiques. C'est-à-dire que on peut pas avoir des études parfaites qui vont vous dire oui, c'est bon à 100% ou non. Donc, il faut des fois utiliser les données qu'on a pour prendre une décision qui soit la meilleure possible pour la population.
C'est justement ce que j'allais vous poser comme dernière question parce que les auditeurs m'écrivent là-dessus. Vous l'avez dit, c'était une première pour l'humanité. On a appris au fur et à mesure. Est-ce que vous pensez qu'avec la conjoncture mondiale, l'industrie du voyage, les déplacements, donc la vie moderne, nous laisse entrevoir l'arrivée dans 5 ans, 10 ans, 15 ans et peut-être moins d'un autre virus du type de la COVID?
Alors, moi, je pense que c'est toujours possible, bien sûr, mais je pense que c'est je dirais que c'est quelque chose de relativement peu probable parce que l'humanité a tendance à avoir des pandémies à peu près tous les 100 ans. Donc, la grande pandémie de la grippe espagnole 1917, la grande pandémie de la COVID 2019, celle qui était avant, on a parlé d'une épidémie de choléra dans les années 1830, une pandémie de choléra, la peste dans les années 1740 à peu près. Donc, il semble y avoir une espèce de métronome, si vous voulez. Bien sûr, les conditions ont changé. On est 8 milliards d'habitants. On a, comme vous l'avez bien dit, des moyens de transport exceptionnellement efficaces pour aller partout sur la planète. Il y a des dangers des fois qu'on découvre des virus qui sont isolés dans des zones très reculées. Lorsqu'on y va, ben, on s'expose à ramener ces virus dans la population. Donc, il y a tous ces phénomènes-là qui existent. Est-ce qu'on risque d'avoir une autre pandémie? C'est peu probable. Évidemment, c'est pas impossible. Mais ce qu'il faut, c'est toujours être aux aguets, garder un système de surveillance et un système d'alerte pour justement, au cas où, prendre des mesures immédiates. On l'a vu avec ce qui s'est passé en Chine relativement récemment. Vous vous rappelez cette espèce d'épidémie de pneumonie chez les jeunes enfants qu'on a pensé être un mycoplasma pneumonie avec une résurgence. Finalement, on a vu que ça n'a pas donné grand-chose en termes global d'impact sur la planète, mais ça a montré que le temps de réaction des pays a été extrêmement rapide pour justement pouvoir essayer de contenir un nouveau virus potentiel. Donc, moi, je pense que, c'est mon humble avis, on ne verra pas de pandémie dans les quelques prochaines années, mais il faut garder un système d'alerte avancé.
Merci beaucoup, Dr. Weiss. Bonne journée à vous.
Vous aussi.
Au revoir. Dr. Carl Weiss, qui est microbiologiste et, vous le savez aussi, spécialiste des maladies infectieuses.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Maintenant, Bénédicte, ce matin, tu nous présentes le témoignage d'un homme de 37 ans qui a été agressé sexuellement par son oncle durant plusieurs années, là, durant sa jeunesse. Et c'est clair que cet homme-là a été marqué. Il souhaite que la justice soit rendue.
alors que sa sentence en tant que victime, ben lui, c'est condamné à vie, là.
C'est comme ça qu'il dit. Je te raconte aujourd'hui l'histoire de Pascal. Pendant plus de 10 ans, il a été abusé sexuellement par son oncle, un homme qui était, dans le fond, un de ses seuls points de repère, parce que lui a été placé en famille d'accueil assez tôt dans sa vie. Son adolescence a été difficile. Il est tombé dans la criminalité. Ça lui aura pris des années avant de se remettre dans le droit chemin. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de porter plainte. Et il y a quelques mois, son oncle, Luc Steben, a été reconnu coupable de contact et d'incitation à des contacts sexuels, d'agression sexuelle aussi. Et on peut nommer Pascal parce qu'il a demandé de faire lever l'ordonnance de non-publication. Il a accepté de partager ce qu'il a vécu. Les abus, ça débute quand il a 6 ans. Et ça se poursuit jusqu'environ vers l'âge de 16-17 ans. Et durant ces années-là, Pascal séjourne dans plusieurs familles d'accueil, dans des foyers de groupe, dans des centres jeunesse. Disons qu'il va faire plusieurs endroits. Et quand il est enfant, il peut rendre visite à sa famille quand il y a des événements spéciaux, comme les anniversaires, par exemple, quand c'est Noël, quand c'est Pâques. Mais c'est lors de ces rassemblements familiaux-là que les abus commencent. Quand ils se retrouvent, son oncle est là, ils se retrouvent seuls tous les deux dans une chambre, par exemple. Et ça se passe d'abord dans un endroit, une chambre où il y a plusieurs objets insolites, sirènes de police, des radioémetteurs, tout pour intéresser un jeune garçon. Et là, les deux se ramassent là et ça semble pas causer donc de soupçons quand il est dans cette pièce-là avec son oncle pour les autres membres de sa famille. Et là, ça continue de se produire à chaque fois qu'il est avec sa famille.
Peu de fois que je vois ma famille, que je vois ma mère, ben les événements, ils se passaient là précisément. Même que j'irais jusqu'à dire qu'il y a même eu des permissions spéciales pour que je puisse sortir du centre d'accueil pour qu'ils viennent me chercher. Donc, le peu de moments que je voyais ma mère, ben ça a été détruit en quelque sorte, cette partie-là que j'ai eue dans ma jeunesse.
Donc, ces souvenirs familiaux, il y a rien de positif qui reste pour l'instant. Et à l'adolescence, Pascal commence à faire des fugues. Et quand il se retrouve dans le trouble, c'est son oncle qui vient le chercher, qui le ramène chez lui. Son oncle conduit un camion, donc l'amène faire des tours. Et les abus ont lieu chaque fois qu'il se voit, entre autres, justement, dans le camion.
Je m'accrochais aux peu de gens qui me considéraient, qui me prenaient en considération. Ils me faisaient sentir comme si j'étais important, comme si j'étais là pour moi. C'est ça. Vu qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient là pour moi, ben, je crois que j'allais vers ceux qui étaient là.
C'est ce qu'on entend souvent, hein, quand des personnes sont moins entourées, même si la personne est nocive, ils s'accrochent aux adultes qui sont dans leur entourage. Et la situation s'est ensuite mise à déraper pour Pascal. Il est tombé dans la criminalité et il a été très honnête avec moi dès le début. Il a une longue feuille de route criminelle. Il a été condamné plusieurs fois pour différents crimes, ce qui l'a déjà même mené en prison.
Au centre d'accueil, j'étais entouré de beaucoup de jeunes déjà qui étaient dans le crime. Donc, ben moi, j'ai commencé à fuguer, à vendre de la drogue pendant mes fugues. Par après, ben j'ai fait beaucoup de trafic, beaucoup de la violence, des vols. C'est sûr que j'avais sûrement une rage. J'avais déjà une rage contre le système, contre ma situation, contre ma famille. Puis sûrement les choses inconsciemment aussi en dedans de moi, c'était que de la rage.
Et cette rage-là, elle a duré longtemps. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans des personnes qui ont vécu des choses traumatisantes dans leur jeunesse. Ça va avoir des répercussions, assurément, sur le développement, sur leur parcours. Et Pascal se donne pas d'excuses. Il est quand même conscient de ce qu'il a fait, mais il est quand même conscient aussi que ce qu'il a vécu, ça a contribué à son parcours criminel. Et là, ce qu'il me dit, c'est qu'il réussit à reprendre le droit chemin des années plus tard, quand il apprend que sa conjointe est enceinte, qu'il va être le père d'une petite fille. Et c'est là aussi qu'il décide de porter plainte. Il y a comme un déclic qui se fait. Ça se fait il y a 7 ans. Il a décidé de le faire pour protéger les enfants qui gravitent toujours autour de son oncle à ce moment-là, mais aussi pour sa propre fille.
J'ai fait ça en quelque sorte pour me libérer de ça, pour être mieux mentalement, pour la recevoir dans ce monde. Puis, dans le fond, je me ramasse 7 ans plus tard. Ça s'en vient une grande fille de plus en plus, puis je suis encore dans les procédures.
Je trouvais ça assez fou, ça. Il a commencé les procédures ou le processus avant que sa fille soit née. Et là, sa fille a 7 ans et il est toujours dans les mêmes procédures. Ça montre comment ça peut être long dans son cas. Sa fille a eu le temps d'avoir 7 ans. Il a fait sa déclaration vidéo aux policiers en 2017. Mais là, il y a eu changement de procureur, changement d'enquêteur, un changement d'avocat pour son oncle. Il y a eu la pandémie. Et pour Pascal, ça a été difficile de faire confiance au système de justice parce que il le dit comme ça. Il dit « Normalement, le procureur, c'est celui qui est contre moi ». Mais là, j'ai dû travailler avec un procureur. Il dit qu'il a été bien entouré. Il a réussi à faire confiance. Ça lui a permis de voir les choses différemment, justement. Et il m'expliquait que le fait qu'il y a autant de délais avant que son oncle reçoive sa peine, ça le fait réfléchir. Il dit, moi, quand je me suis fait prendre pour trafic de stupéfiants, par exemple, c'était pas trop long que j'étais en dedans et que je purgeais ma peine. Et de voir que celui qui a gâché ma vie, c'est long avant qu'il puisse avoir sa sentence, ça vient le chercher quand même. Il a dû aller témoigner. Ça a été très, très éprouvant. Pour lui, le juge a même souligné que clairement, de revisiter ces souvenirs-là, on le voyait à quel point ça l'ébranlait et que ça pouvait donner, c'était pas un manque de transparence dans le témoignage, mais c'était vraiment à des émotions qui étaient très, très fortes. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est que après que ça se soit passé, il a mis ça dans un tiroir, puis pendant des années, il en a plus jamais reparlé, il n'y a pas pensé non plus, mais de rouvrir ça, ça l'a entraîné dans tout un tourbillon.
J'ai eu des soirs, pas que j'avais envie de mourir, mais que j'étais au bout de ma vie, puis que, peu importe, je faisais des crises quasiment comme un enfant, là, parce que juste ça me prenait la tête, ça m'a replongé plus que jamais, puis je pense que ça a été sept des années les plus dures de ma vie. Là.
Il me disait que ces années-là ont même été, pour lui, plus difficiles que les années où il a vécu ce qui s'est passé, parce que c'était peut-être moins conscient pour lui à ce moment-là. Et il va s'adresser au tribunal la semaine prochaine pour témoigner des conséquences que les abus de son oncle ont eu sur sa vie, pour déterminer la peine qui va être imposée à Luke Steben. Et lui, il espère recevoir son oncle une sentence à la hauteur de ce qu'il lui a fait subir pendant toutes ces années.
J'ai pas envie qu'il pogne juste rien, parce que je vais vivre ma sentence même après qu'il soit sorti, ou même qu'il meure, moi, ma sentence, c'est à vie, là. Fait que...
C'est quoi ta sentence?
Ma sentence, c'est d'avoir perdu ma jeunesse d'un certain sens, avoir perdu des relations avec des femmes à cause que j'étais trop compliqué dans ma tête, puis sûrement que je suis trop protecteur avec mes enfants. Aussi, il faut que je réussisse à gager ça.
On le voit à quel point, ouais, dans toutes les facettes de sa vie, ça a eu des conséquences et ça continue à en avoir, et probablement que dans certains cas, ça va se poursuivre jusqu'à la fin de ses jours. Là, il est marqué au fer rouge pour dans certains domaines. Et j'ai parlé avec le procureur au dossier, Maître François Parent, qui m'a confirmé qu'il compte demander une peine importante. Il voulait pas s'avancer davantage, mais il va quand même prendre en considération, parce que dans le dossier, là, on s'entend que les faits sont graves. On s'en prend à un enfant, c'est répété sur de nombreuses années. C'est un adulte en qui il a confiance. Et je trouve Pascal courageux d'avoir voulu prendre la parole, de partager son cheminement de vie qui a été difficile, on va le dire, depuis le début. Là, il est maintenant père de deux filles. Lui, il veut fermer ce chapitre-là. Mais un homme qui a un passé criminel quand même important, qui est conscient quand même que son bagage l'a peut-être mené là, mais qui a décidé quand même de faire confiance au système de justice.
Et de porter plainte.
Et d'avoir raison, dans le sens où il a été reconnu coupable, son oncle, après lui avoir fait vivre toutes ces années d'enfer-là. Alors, je voulais vous présenter ce témoignage que j'ai trouvé pas mal touchant ce matin.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Maintenant, vous savez, on a parlé de ce CES à Las Vegas, qui est un gros show de produits électroniques, de haute technologie, d'un peu... J'allais dire d'ouverture vers le futur. On a parlé de télé, par exemple, hier. Et ce matin, Guillaume Mathieu, qui est cofondateur et associé d'ILO, là, qui est une firme de consultation en stratégie agroalimentaire, est à Vegas. Il est avec nous ce matin pour nous parler un peu, j'allais dire, de l'aménagement puis des appareils reliés à l'alimentation dans les cuisines, par exemple, du futur. Monsieur Mathieu, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Qu'est-ce qui vous a frappé le plus dans ce que vous avez découvert cette année?
Ben, c'est sûr que l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres. C'est vraiment le thème du salon cette année. Depuis plusieurs années, l'intelligence artificielle elle travaille un peu dans l'ombre, là, dans la production au niveau des champs, de la transformation, même de la distribution de nos aliments. Mais là, on voit que cette technologie-là rentre dans les cuisines, dans les mains des consommateurs, avec différentes applications pour nous aider à numériser, par exemple, les aliments dans notre frigo, pour avoir des idées de recettes, avoir des idées pour éviter du gaspillage alimentaire. Ce genre d'ajout-là va arriver éventuellement, plus tôt que tard, dans nos appareils électroménagers.
Est-ce que je comprends qu'on a, par exemple, des appareils là, qu'on connaît actuellement, mais qui vont être regroupés? Par exemple, un micro-ondes avec un autre type d'appareil?
Ouais, ça c'est un autre élément qui m'a frappé en marchant les différentes allées du salon, c'est les appareils multifonctions en plus qui sont connectés. Par exemple, Panasonic a lancé un micro-ondes 4 en 1 avec un air fryer, un four à convection intégrée, même un grill dans ton micro-ondes. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Du côté d'Amazon, ils présentaient une plaque là, qui est faite par une entreprise qui s'appelle Impulse, une plaque à induction, mais elle est tellement précise qu'elle peut remplacer un cuiseur à riz ou même une friteuse parce que les ronds adaptent leur température en fonction de la chaleur à l'intérieur du chaudron. Donc, ça permet d'éviter d'avoir plusieurs petits appareils en concentrant ça sur quelques-uns plus polyvalents.
Bon, d'après vous, est-ce que ce sont des trucs qui vont être vendus 25 000 $ et disponibles dans 15 ans ou si on aura ça à un prix raisonnable bientôt?
C'est une excellente question. C'est certain que lorsque les produits arrivent sur le marché, ils sont toujours un peu plus dispendieux. Là, cette plaque à induction-là était autour de 5 000 $ par contre, on voit qu'il y a d'autres produits qui sont à des prix plus abordables. Là, j'ai vu d'autres appareils pour nous rendre encore plus autonomes à la maison, comme un fumoir électrique là, pour notre comptoir de cuisine. Il me semble qu'il était autour de 500 $ même un torréfacteur pour notre comptoir de cuisine. Donc, au lieu d'acheter notre grain de café déjà torréfié, on l'achèterait vert et puis on pourrait le torréfier soi-même à la maison toutes les semaines pour avoir le café le plus frais possible. Donc, il manque pas d'imagination.
Bon, nous, on a eu un débat en studio ce matin sur un barbecue électrique. là, vous me dites quoi qu'il y a des modèles aussi puissants qu'un barbecue au gaz traditionnel?
C'est ce que le fabricant dit. Je ne l'ai pas essayé moi-même. Je l'ai vu en fonction là, à l'extérieur d'un des pavillons du salon. Ils nous ont fait des belles brochettes. C'était succulent. Mais le manufacturier dit que c'est aussi puissant qu'un barbecue au gaz. Puis qu'ils sont en mesure d'atteindre une température de cuisson parfaite en moins de 10 minutes. Ils vont se rendre jusqu'à 700 degrés sans problème. Mais le principal avantage qu'ils donnent, c'est que l'appareil peut être connecté et peut adapter sa température de cuisson en fonction d'une recette qu'on va lui donner. Donc, si on lui demande, par exemple, de saisir à feu très vif et ensuite de baisser la température, le changement de température va être beaucoup plus rapide et précis pour assurer une cuisson idéale, si on veut. Du moins, c'est les arguments du manufacturier.
Je continue ma liste. Un bac à compost qui ne sent pas.
Oui, ça c'est une innovation que Panasonic a annoncée l'an dernier, mais qui est représentée cette année au CES, donc c'est gros comme une poubelle de cuisine. Mais l'idée, c'est de déshydrater le plus rapidement possible les aliments à l'intérieur du bac pour éviter les odeurs. Donc, je trouvais ça intéressant parce qu'on a tous des enjeux chacun de notre côté lorsque l'été arrive.
Hein? OK, et je termine avec une des nouvelles les plus importantes pour des gens qui travaillent tôt le matin et qui se lèvent en plein milieu de la nuit, de la vaisselle qui fait pas de bruit.
Oui, deux innovations, mais une intéressante, encore une fois, du côté de chez Panasonic, ils ont breveté un nouveau plastique qui est fait sans pétrole, donc à base de plantes, là, en utilisant la cellulose et différentes matières végétales qui sont vouées normalement à la poubelle, comme du marc de café ou des résidus de fabrication de saké, pour développer un nouveau plastique qui ne fait pas de bruit. Puis il y a une autre entreprise aussi qui a développé une autre matière brevetée, qui est un mélange de verre trempé et d'élastomère qui permet d'avoir de la vaisselle comme on a habituellement à la maison là, en genre de céramique, mais qui fait aucun bruit. Donc ça, je l'ai mis sur ma liste. Là. Je vais essayer de la trouver aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu encore. Là. J'ai juste vu la nouvelle passer.
OK. Merci, M. Mathieu. Bien intéressant. Bonne journée.
Ça fait plaisir.
Guillaume Mathieu, cofondateur et associé d'ILO, qui est une firme de consultation en stratégie de marque agroalimentaire.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.